A-t-il été le modèle du docteur Folamour de Stanley Kubrick ?
Patrick Pénaud.
Gus Weiss, en tout cas, a usé de sa diabolique intelligence pour prendre les soviétiques à leur propre jeu, en se servant de leur réseau d'espions pour les intoxiquer.
Rendez-vous avec X, tous les samedis à 13h20 sur France Inter.
France Inter,
la voix est libre.
Il est là dans le studio, Daniel Mermet pour là-bas, si j'y suis, c'est parti.
Bonjour à tous, si vous voulez un moment de bonheur, un moment de jouissance absolue, vous allez sur YouTube et vous tapez Bernard Friot et Ce soir ou jamais. Et là, il y a Bernard Friot contre des espèces de bandits et de voyous de la droite, du néolibéralisme, etc. Et vous le regardez jusqu'au bout, parce que Bernard Friot, il est bon, il est excellent. Il y a 27 minutes 03 de bonheur.
Oui, bonjour. Alors la rentrée à Nevers pour les AMG, ben, c'est ce jeudi 5 septembre à 20h, comme d'habitude aux 5 rue Saint-Didier, au café Les Copains à bord. Et nous discuterons des nouvelles les plus fraîches de la ZAD de Sardi des Épiries. Et surtout, ben, nous ferons les perspectives pour cette nouvelle année. Venez nombreux.
Bonjour à toutes et à tous. Le repère de Perpignan reprend ses activités ce jeudi 5 septembre à 18h30 au café du centre qui se trouve à l'angle de l'avenue du lycée Arago. Venez nombreux chez AMG.
Pascal Clark cherche un concours d'oxymore le matin dans son émission. J'en aurai un. France Inter, la voix est libre. C'est un putain d'oxymore. J'embrasse tous les AMG. À bientôt.
Moi aussi, j'embrasse les AMG. Merci, bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est notre émission avec le monde diplomatique. Comme chaque mois, depuis je ne sais combien d'années, ou une vingtaine, on se retrouve avec l'équipe du Diplo. Et ce mois-ci, avec beaucoup de papiers très, très stimulants, mais surtout un long papier de Serge Halimi sur la reconquête des arguments, des idées, et très articulé pour se redonner un petit peu d'énergie et lutter contre la résignation ambiante. Voilà le Diplo aujourd'hui. Auparavant, encore quelques messages parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale au 01 56 40 37 37.
Bonjour, ici le repère d'Aix-en-Provence. Ce jeudi 5 septembre, à 19h30, au restaurant Les Cousins, situé au 40 avenue Robert Schumann, face à la Fac de Lettres, nous accueillerons Hélène Lecacheux. Elle nous proposera un atelier de lecture sur le thème du grand marché transatlantique. En effet, négocier sans publicité ni débat, le grand marché transatlantique exige de remanier en profondeur les lois, les institutions et les valeurs de nos sociétés. Basé sur la compétition économique et la marchandisation, ce projet renforce le pouvoir des multinationales face aux États qui vont se vendre en bradant les protections sociales, les conditions de travail, les salaires. Le grand marché transatlantique menace les libertés civiles, l'écologie et la démocratie. Fait par les multinationales et pour les multinationales, ce projet devrait aboutir en 2015. Mais auparavant, chacun d'entre nous pourra s'exprimer sur le préoccupant phénomène de rabotage dont est victime là-bas si j'y suis. Bonne journée à tous.
Bonjour AMG de Strasbourg et alentour. Nous avons rendez-vous le samedi 7 septembre à 15h au bar La Perestroïka, 2 rue Tiergarten. C'est tout près de la gare. À samedi.
Oui, bonjour, c'est donc le Cotopo. On est 14 rue René Lénaud, Lyon 1er. On vous annonce ce vendredi 6 septembre, un repère des amis là-bas si j'y suis, typiquement lyonnais, avec pour thématique l'OL Land, pourquoi, pour qui, avec l'association Carton Rouge, collectif d'associations groupées et opposées à ce projet. Voilà, la réunion commence à 20h30 au 14 rue René Lénaud, au Cotopo. Merci, à bientôt.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis, avec l'équipe du Monde Diplomatique.
Flight number 2, arriving from New York.
Alors j'ai une question à vous poser à tous, avant de commencer. Vous êtes tous très sages autour du micro, mais il va falloir réfléchir. Une balle de Kalachnikov à une vitesse de 800 mètres par seconde. Un Moudjahidine a dans son viseur le front d'un Russe situé à 3200 mètres. Combien de secondes la balle mettra-t-elle à atteindre le front du Russe? Ah, silence, hein. Alors, une autre question.
Ça, c'est destiné aux élèves de quel pays?
Alors, c'est destiné, c'est un manuel scolaire.
Des années de 1980 en Afghanistan qui étaient édités par des Moudjahidines en lutte contre l'occupation soviétique installés au Pakistan et donc financés par les Américains, dans lequel on trouve ce type d'exercice de maths du type le temps pour atteindre le front d'un Russe avec une balle de Moudjahidine, ou alors je crois qu'il y en avait un sur une embuscade de Moudjahidines contre 50 Russes.
C'est ça. Un groupe de Moudjahidines attaque 50 soldats russes. Dans cette attaque, 20 Russes sont tués. Combien de Russes ont-ils survécu? Réponse.
C'est assez facile.
Voilà, mais ça, on ne va pas en parler tout de suite. On parlera tout à l'heure des manuels scolaires. Le diplôme de ce mois-ci, de ce mois de rentrée, consacre tout un dossier aux manuels scolaires. On va commencer par le papier de Serge Halimi, qui nous donne la recette, cette fois-ci, pour s'en sortir. Stratégie pour une reconquête de l'audace. Et si on suivait la recette de Serge Halimi, je pense que vraiment on s'en sortirait.
Disons qu'il y a quelques mois, j'avais fait un état des lieux des problèmes qu'on rencontrait à l'échelle internationale, le creusement des inégalités, le pouvoir croissant d'une oligarchie. Et là, donc, l'objectif, c'était d'envisager des moyens de sortir de cette situation qui n'est pas joyeuse. En partant de ce point de départ assez simple, c'est que le 15 septembre, ça se fera 5 ans. Qu'on a eu la faillite de Lehman Brothers, et la suite, on la connaît. Les États se sont endettés pour sauver les banques. Les banques, une fois sauvées, se sont retournées contre les États. L'obsession de l'endettement a généralisé des politiques d'austérité qui ont plongé les peuples européens dans la misère. Donc 5 ans ont passé, et après un choc économique et financier aussi vigoureux, curieusement, très peu de choses ont changé au plan politique.
On a pensé, et on pouvait penser que, cette fois-ci, le capitalisme était mort.
On pouvait se dire, dans les années 30, quand il y a eu la crise, il s'est passé un certain nombre de choses, bonnes ou mauvaises, mais il y avait eu le New Deal aux États-Unis, le Front populaire en France, l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il y a eu des changements politiques.
Et rien en Angleterre.
Et là, 5 ans après Lehman Brothers, il se passe un peu ce qui s'est passé au Royaume-Uni dans les années 30, c'est-à-dire pas grand-chose. François Hollande a remplacé Nicolas Sarkozy, autant dire que rien n'a changé.
Bilan un peu triste que vous dites, c'est qu'il domine la scène économique, mais par rapport au paradis promis, ça c'est plutôt décevant.
Oui, mais ça ne les empêche pas d'être au pouvoir et d'appliquer une politique libérale encore plus dure que celle qui a conduit à la crise d'il y a 5 ans. Donc la question qu'on se pose au diplôme, c'est de savoir pourquoi les forces anticapitalistes ont aussi peu tiré profit de la principale crise que le capitalisme ait connue depuis 80 ans. Et surtout, que faire?
Voilà, la vieille question célèbre.
Ce qui est maintenant clair, c'est qu'il faut proposer des transformations structurelles pour répondre à une crise du système. On peut être tenté, évidemment, de défendre les acquis qui sont menacés, d'essayer d'écoper le bateau à mesure qu'il fuit. Mais ce ne sont pas des rustines qui vont réparer une coque pourrie. Donc il faut être audacieux. D'ailleurs, on le voit en ce moment, quand la crise s'apaise un peu ou semble s'apaiser un peu en Europe, c'est le Brésil et l'Inde qui flanchent. Donc une crise qui semble s'apaiser quelque part, ça veut dire une autre qui démarre ailleurs.
Oui, ce que vous dites aussi, Serge Halimi, c'est que la raison pour laquelle le néolibéralisme s'est maintenu malgré cette crise, c'est grâce aux pays émergents, Brésil, Inde, etc., qui ont constitué une force économique.
Absolument. Ça a été la cavalerie du système en déroute, l'arrivée sur la scène internationale de nouveaux producteurs, de nouveaux consommateurs qui ont impulsé en quelque sorte à l'économie mondiale ce bol d'air dont elle avait terriblement besoin, dans la mesure où aux États-Unis et en Europe, c'était la récession, voire la dépression. Donc il faut acclimater un certain nombre de réformes radicales. Là, j'en rappelle trois. La première, c'est l'extension du secteur non marchand. Depuis 30 ans, on le sait, c'est plutôt l'inverse qui se produit dans le monde. Les études universitaires, la santé, la retraite font de plus en plus appel à des droits d'inscription élevés, à des tickets modérateurs qui grimpent, à des assurances complémentaires. C'est la logique de la marchandisation et de la privatisation. Là, il s'agirait de faire l'inverse, c'est-à-dire d'améliorer le niveau de vie de la population, non pas en augmentant les salaires, parce que alors la tentation serait de consacrer cette augmentation des salaires à un achat de biens et de services, y compris inutiles, y compris écologiquement destructeurs, mais il me paraît préférable d'assurer gratuitement la satisfaction d'un nombre croissant de besoins.
Avec quel argent? Avec quel sou?
Par le biais, évidemment, de l'impôt ou de la cotisation sociale, qui socialiserait une partie croissante de la richesse. Donc ça pourrait être une première réforme et qui, a priori, est une réforme assez populaire.
Qui gère ça?
Je ne vais pas y revenir ici, mais c'est une proposition qui est sérieuse. La question qui se pose davantage à l'heure actuelle, c'est de savoir quelle force politique reprendra à son compte des propositions de cet ordre. La deuxième proposition radicale, et celle-là vous la connaissez, y compris à la base si j'y suis, parce que vous l'avez évoquée à plusieurs reprises, c'est l'annulation de toute ou partie de la dette. Et il faut rappeler, on l'a rappelé dans l'histoire, les États très endettés qui n'ont pas voulu mourir guéris, à force de rembourser une dette extravagante, eh bien ils ont presque toujours procédé de la même manière, ils ont presque toujours spolié les rentiers d'une façon ou d'une autre. La manière la plus brutale, c'était Lénine disant « on ne rembourse rien ». L'autre réponse, qui est moins radicale, d'autant qu'elle a été mise en œuvre par un homme aussi conservateur que Raymond Poincaré, mais qui revient au même, c'est de dire, on vous doit 100 francs, soit on vous les rembourse, mais on va vous donner 100 francs qu'on vient d'évaluer et qui n'en valent plus que 20. Après tout, c'est ce qui s'est passé en 1928. La France était très endettée et elle ne pouvait pas rembourser cette dette, à moins de mener une politique d'austérité qui aurait duré des décennies et qui l'aurait saignée à blanc. Eh bien, on leur a rendu des francs, mais évidemment, ils n'avaient plus la même valeur. Et l'État s'est soudainement allégé de manière considérable. L'autre moyen d'alléger la dette, c'est évidemment de laisser filer l'inflation, ce qui aboutit au même résultat que la dévaluation, mais de manière encore plus discrète. Troisième réforme radicale qu'on propose, la fiscalité. Entre les boucliers fiscaux, la moindre taxation des revenus du capital, les paradis fiscaux, ce sont des sommes absolument extravagantes qui ont été sacrifiées par la collectivité au profit des 1% les plus riches. Et des sommes extravagantes, puisque rien que les paradis fiscaux, selon une étude de l'Union européenne, ce serait 1 000 milliards d'euros de perdus par les États de l'Union européenne, c'est-à-dire plus du double du montant du remboursement de la dette. Si ces sommes étaient récupérées, ce qui exigerait simplement une volonté politique, l'équilibre budgétaire serait rétabli presque partout en Europe sans plan d'austérité. Ce sont les trois propositions. Alors on me dira, tout ça est très audacieux. Il n'y a aucune chance qu'un gouvernement Hollande ou Cameron, etc., ne propose des réformes de ce type.
Prenez exemple sur Lénine avec les emprunts russes. Je ne vois pas François Hollande déclarer « nous allons faire comme Lénine ».
La transformation de François Hollande en Lénine est assez imprévisible, imprévue en tout cas, elle serait étonnante, mais que François Fillon s'inspire de Raymond Poincaré, après tout, c'est la même famille politique. D'autant que quand on dit que tout ça est très audacieux, il faut se souvenir, et on le rappelle dans l'article, que lorsqu'il s'est agi de sauver leur système en péril, les libéraux, eux, n'ont pas manqué d'audace. Ils n'ont pas reculé devant une hausse très sensible de l'endettement public, alors que pendant des décennies, ils nous avaient expliqué que cette hausse de l'endettement ferait flamber les taux d'intérêt. Ils n'ont pas reculé devant une très forte relance budgétaire, alors qu'ils avaient prétendu qu'elle déchaînerait l'inflation. Il n'y a pas eu d'inflation.
Donc l'audace, c'est eux.
Ce sont les choses qu'on a connues tout de même à Chypre et qui ont été décidées avec l'aval de la Commission européenne, avec l'aval du Fonds monétaire international. En somme, comme le dit le poète, je crois que c'est Aragon, quand les blés sont sous la grêle, fou qui fait le délicat. À mon avis, Il faudrait tirer les leçons de tous les mouvements qui ont précipité des dizaines de millions de gens dans la rue et dans l'action, sans que le résultat, après, soit toujours au rendez-vous.
Voire même très décevant. On va parler de l'Égypte avec Alain Grèche,
voilà.
Par exemple.
La leçon de tout ça, c'est que l'enthousiasme et la spontanéité ne suffisent pas.
Parce qu'on a quand même, si je prends les 10 dernières années, on a eu pas mal de mobilisations, de manifs de toutes sortes. Je pense aux retraites, par exemple, en France. On peut citer évidemment les indignés espagnols, on peut parler d'Occupy Wall Street, etc., jusqu'en Israël, etc. On a eu des mouvements spontanés, des mobilisations enthousiastes au cours de ces années. Il n'y a pas eu rien. On parle de dépolitisation, on voit bien qu'il y a eu des mouvements. Alors, ça n'a pas conduit à grand-chose, sinon à une grande déception globale qui conduit à une certaine résignation.
Voilà. Et là, je cite une métaphore du sociologue Alain Accardo. La présence sur une table de toutes les pièces d'une montre ne permet pas à quelqu'un qui n'a pas le plan d'assemblage de la faire fonctionner. Un plan d'assemblage, c'est une stratégie. En politique, on peut pousser une succession de cris ou on peut réfléchir à l'assemblage des pièces. Et définir quelques grandes priorités, reconstruire le combat autour d'elles, les priorités que j'ai évoquées, mais ça peut être d'autres, c'est, je crois, jouer le rôle de l'horloger. D'un côté, on a quand même une classe dirigeante qui est, elle, solidaire, qui est consciente de ses intérêts, qui est maîtresse de la force publique. Et ça, ça ne peut pas être combattu efficacement par d'innombrables associations, syndicats, partis, qui redoutent en permanence d'être récupérés par le pouvoir politique. C'est pour ça qu'à mon avis, la contrepartie de cette réflexion politique, c'est l'exigence que les forces politiques qui relayeront les priorités qu'on a définies acceptent qu'elles puissent être révoquées à tout moment par la population si elles ne tiennent pas les engagements qu'elles ont pris. Parce qu'on voit ça depuis des années, des forces politiques qui nous promettent monts et merveilles, qui arrivent au pouvoir et qui nous disent écoutez, oui, je critiquais Cameron, mais je vais faire la même chose que Cameron.
Les choses ont bien changé.
Sarkozy, mais je vais faire la même chose que Sarkozy pour montrer que je suis aussi rigoureux et aussi sérieux qu'eux. Il me semble que dans un cas comme celui-là, il faudrait que la population ait le pouvoir. Ça existe au Venezuela. Ils le font à partir de la moitié du mandat du président, sous forme de pétition populaire, de révoquer les élus qui ne seraient pas conformes à leur mandat.
Est-ce qu'il y a un leader politique qui vous a appelé, avec qui vous avez conversé, qui dit « Mais écoutez, le monde diplomatique a de très bonnes idées, on va prendre là-dedans, on va... »
Non, je vous rassure, encore...
Non, mais c'est pas rassurant, ce serait normal.
Non, mais en tout cas, ça ne s'est pas produit. Mais c'est pas aux leaders politiques que nous nous adressons, à vrai dire. On ne fait pas un programme politique. On dit, voilà, on est dans une situation difficile. Plutôt que de se plaindre en permanence, faisons un certain nombre de suggestions. Et puis, voyons qui les relaie et si elles ont un moyen d'infléchir le discours politique afin qu'on ne soit pas toujours sur la défensive à se demander ce que les autres vont faire et comment on va pouvoir répondre à ce que les autres ont fait pour, en quelque sorte, amoindrir les dégâts qu'elles provoquent.
On nous appelait les Golden Boys. On était les rois du pétrole, voitures de sport et jets privés. Quand t'as du cash, pourquoi le cacher? On jonglait avec les milliards, dans nos poches tombaient les dollars. Pile tu gagnes face, tu ne perds rien. Quand l'argent ça n'est pas le tien, donne ton cœur. Un beau jour tout s'est écroulé.
Tout s'est écroulé.
Bye bye bonus, retraite dorée.
Mon jet privé s'est envolé.
Pour qu'il remonte sur le ring, pour qu'il retrouve son standing.
son portefeuille aussi.
Alors on continue avec le Monde diplomatique de septembre, avec Alain Grech, qui ne parle pas de la Syrie dans ce numéro, qui parle de l'Égypte. Mais je vais quand même vous interroger sur la Syrie, parce que c'est assez curieux ce qu'on entend là. Est-ce qu'il faut approuver cette offensive ou au contraire s'y opposer? Alors on entend des voix très différentes. J'entendais Ronnie Broman qui était plutôt favorable à l'offensive sous certaines conditions. J'entends M. Raffarin qui est beaucoup plus mesuré. Comment vous voyez cette polémique?
Il y a deux questions de type différent. Le prétexte de cette intervention, c'est l'utilisation d'armes chimiques dans le conflit syrien. Et donc le président Obama a dit que c'est une ligne rouge. Ça, c'est la raison qui est donnée pour justifier une intervention. Mais ce qui est curieux en même temps, c'est que les gens même qui prônent cette intervention disent eux-mêmes que ça ne servira pas à grand-chose dans la mesure où ils ne sont pas prêts à envoyer des hommes sur le terrain, qu'ils ne veulent pas bouleverser le rapport de force, et que l'analyse des responsables américains, c'est de dire que, évidemment, ils n'aiment pas le régime actuel, mais ceux qui le remplaceraient éventuellement, ils ne les aiment pas non plus. Donc on est dans une situation assez curieuse où on va avoir une intervention militaire sans objectif politique, et puis qui pose un problème de légalité internationale qui est évidemment très important, puisque même s'il est prouvé, pour l'instant, il faut attendre les conclusions des inspecteurs de l'ONU, même s'il est prouvé que l'armée syrienne a utilisé ces armes chimiques, rien ne permet aux États-Unis de proclamer qu'au nom de cette utilisation, ils ont le droit d'intervenir sans aval des Nations Unies. Il faut rappeler quand même que les gaz chimiques ont été interdits après la guerre de 14-18, et il n'y a eu que trois violations claire de cette interdiction. La première, c'est par Mussolini en 1935 dans son invasion sur l'Éthiopie. La deuxième, c'est par les Américains au Vietnam, notamment avec l'agent Orange. Et la troisième, c'est Saddam Hussein contre les Iraniens et les Kurdes. Il faut rappeler que Saddam Hussein avait le soutien des Français et des États-Unis, et que les États-Unis et les Français savaient très bien qu'il y avait utilisation de ces armes chimiques. Donc on est dans une situation un peu curieuse du point de vue du droit international. Mais quoi qu'il en soit, une violation de cette convention, qui serait effectivement grave, nécessite une réponse des Nations Unies. Et les preuves avancées par les Français et les Américains convainquent pour l'instant d'autant moins que tout le monde a en mémoire le souvenir de 2003, quand les Américains ont inventé des preuves pour justifier leur action. Et il faut dire que dans la région, c'est un discours qui n'est absolument pas perçu comme crédible, le discours américain. Bon, tout le monde pense que c'est un discours fabriqué. Je ne sais pas si c'est vrai. Je dirais, il y a quand même des éléments qui montrent que l'armée syrienne sait se servir d'armes chimiques, qu'elle dispose d'arsenaux importants, etc. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a besoin d'une confirmation par une instance qui est une instance reconnue par tout le monde, qui est les Nations Unies. Deuxièmement, en intervenant unilatéralement, les Américains mettent au rencard les Nations Unies et l'ordre international. C'est quand même quelque chose de très grave. Et puis, il y a un autre élément qui est grave, qui nous concerne, nous, en France, c'est que c'est la première fois qu'on voit la France non pas s'aligner sur les Américains, mais d'accepter de se passer du Conseil de sécurité de l'ONU. Je rappelle quand même que le discours français sur la Syrie jusqu'à présent était toujours de dire s'il y a une intervention, il faut qu'il y ait un accord du Conseil de sécurité de l'ONU. Alors le problème aussi, c'est qu'on est dans une vraie impasse en Syrie, avec un régime qui ne se renforce pas, mais qui ne s'affaiblit plus, et une opposition qui est divisée, et que le régime ne peut pas vaincre, mais qui ne peut pas non plus renverser le régime. Donc face à ça, tout le monde sait qu'une intervention militaire ne réglera rien et qu'il faut une solution politique. Cette solution politique, elle demande des négociations de tout le monde, avec tout le monde, c'est-à-dire avec le régime aussi bien qu'avec les groupes d'opposition. Elle demande la participation de tout le monde, c'est-à-dire aussi bien les États-Unis que les Russes et les Iraniens. Et que si on ne cherche pas ça, une frappe ou un bombardement américain sur la Syrie va plutôt compliquer la recherche d'une solution politique et diplomatique plutôt que d'accélérer cette solution, qui est quand même, il faut le rappeler, une urgence absolue. Je veux dire, c'est vrai que ce que vit la Syrie est quand même quelque chose. Le nombre de réfugiés a dépassé 2 millions. On est à plusieurs millions de personnes déplacées. Et surtout, c'est-à-dire, c'est aujourd'hui un conflit qui à la fois s'étend à toute la région et accélère quelque chose qu'on avait noté même avant les révolutions arabes, c'est la déségrégation des États dans cette région. C'est-à-dire quand vous regardez de l'Irak, en passant par la Syrie, le Liban, la Palestine, l'implosion du Liban et le Sahel, vous avez quand même une région qui est extrêmement affaiblie. Et j'ai vraiment beaucoup de mal à croire qu'une intervention militaire va aidé de ce point de vue à stabiliser les choses.
L'armée et la police égyptienne sont donc passées à l'action très tôt ce matin pour déloger les milliers d'islamistes qui campaient sur deux places du Caire. Et leur intervention a tourné au bain de sang. Au moins 149 morts ont été recensés, mais le bilan pourrait être beaucoup plus lourd. Les chiffres sont encore flous et la confusion règne dans tout le pays. Retour sur ces heures de quasi-guerre civile en Égypte.
Journal de TF1.
Attention, certaines images peuvent choquer.
14 août 2013.
Le face-à-face est violent. Il est 7h ce matin lorsque l'assaut est lancé. La place Adawiya, fief des frères musulmans, est assiégée. D'un côté, les tirs de gaz lacrymogène de la police égyptienne. De l'autre, les jets de pierres et de cocktails Molotov des partisans du président déchu, Mohamed Morsi. Très vite, les affrontements montent en puissance. Ce sont les bulldozers de l'armée qui viennent déloger les manifestants.
Regardez nos mains, ce sont des assassins!
Certains d'entre eux affirment que les forces de l'ordre ont ouvert le feu à balles réelles.
Je jure sur nos morts que nous ne partirons pas et Dieu est avec nous.
Dans les hôpitaux de fortune, les blessés affluent. Et dans les morgues improvisées, on aligne les cadavres. Le bilan est flou. 150 morts selon les autorités. Les frères musulmans, eux, parlent de 2000 victimes.
On continue avec Alain Grèche. Avec le numéro du diplôme de ce mois de septembre, vous consacrez un papier à l'Égypte, et évidemment avec ce 14 août 2013 qui restera quand même une tache de sang dans l'histoire de ce pays, et vous comparez cet événement à Tiananmen, hein, au moins en termes de victimes.
Oui, c'est-à-dire c'est le plus grand massacre urbain en une journée qui ait eu lieu dans un pays depuis Tiananmen. Donc c'est quand même quelque chose d'assez important, d'ailleurs qui n'a pas soulevé, il faut le reconnaître, la même indignation qu'avait soulevé Tiananmen, sans doute parce que les gens qu'on a tués sont des militants islamistes. Et que...
Mais c'est le mois d'août, c'est 14 août, c'est le pont.
Voilà. Effectivement, c'est un tournant parce que le mouvement populaire très important qu'il y a eu le 30 juin contre le président Morsi, qui mettait en cause une gestion qui a été négative et catastrophique, a été, dès le départ, utilisé et manipulé par, pas seulement l'armée d'ailleurs, par ce qu'on peut appeler... les structures profondes qui sont la réalité du pouvoir et qui n'ont pas été mises en cause après la chute de Moubarak. Il faut rappeler d'ailleurs, c'est important, c'est aussi pour ça que la chute de Moubarak a été aussi facile, c'est que Moubarak est parti avec la petite clique autour de lui, mais toutes les structures de l'État sont restées en place, que ce soit l'armée, que ce soit la police, que ce soit l'appareil judiciaire qui est quand même largement favorable à l'ancien régime. On a eu cet État qui était présent, qui était marginalisé, mais qui petit à petit a pu reconstituer ses forces, qui s'est appuyé sur les erreurs et les fautes commises par les frères musulmans pour revenir au pouvoir. Alors il y a eu une alliance entre ce mouvement populaire et cet État profond. Et certains pouvaient s'interroger au départ si, finalement, l'armée faisait simplement, un mouvement rectificatif qui remettrait la révolution dans le cours du 25 janvier. Malheureusement, ce n'est pas le cours qui semble adopté avec à la fois les mesures de répression, le retour d'un État policier, le retour d'une propagande, qui est sidérante. Sous Morsi, il y avait quelques atteintes à la liberté d'expression, mais la presse était à 90% contre le régime de Morsi. Ah. Aujourd'hui, et ils sont à 99% avec l'armée.
Et l'opinion.
Et vous savez, dans un pays de 90 millions d'habitants, c'est toujours très difficile de dire qu'est-ce que l'opinion veut. C'est pas parce qu'il y a eu plusieurs millions de gens dans la rue qu'on peut dire qu'il y a une majorité, une minorité. Ce qui est sûr, c'est que les frères musulmans étaient devenus très impopulaires. Ils ont une base électorale en Égypte, il faut rappeler, de 20 à 25% de la population. Cette base, à mon avis, leur reste fidèle. Et la question qui est posée, c'est un des problèmes des révolutions dans le monde arabe, c'est la reconnaissance du pluralisme. Eux-mêmes, d'ailleurs, quand ils étaient au pouvoir, ils avaient plutôt tendance à penser que tous leurs adversaires étaient des infidèles qu'il fallait liquider. Mais maintenant, on a un régime qui pense qu'on peut construire une société dans laquelle on va exclure un quart de la population. Et il faut bien comprendre...
Mais exclure comment
On met les cadres en prison et les autres, on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer, donc on les marginalise. Le discours dominant aujourd'hui, c'est le discours bouchien, c'est-à-dire c'est la guerre contre le terrorisme. Et dans la guerre contre le terrorisme, bon, évidemment, on arrête de manière arbitraire, on met les gens en prison, on torture, etc. Donc là, on est dans un engrenage qui est inquiétant. Avec, évidemment, cette marginalisation des frères musulmans va permettre aux éléments les plus radicaux qui existent dans les forces islamistes de dire ce que, je cite Zawahiri, le nouveau chef d'Al-Qaïda, qui dit aux frères musulmans, ben, on vous l'avait bien dit. Et c'est vrai que depuis longtemps, Al-Qaïda critique les frères musulmans, critique le Hamas en disant, vous avez choisi la voie électorale, vous verrez, ça ne mène à rien. Et c'est sûr qu'il y aura des jeunes militants qui étaient dans la mouvance des frères qui vont dire oui, c'est ça la réalité. Donc on est dans une situation très inquiétante. En même temps, ce qui lie la coalition très large qu'il y a au pouvoir, c'est l'armée, la police, mais aussi les intellectuels, mais aussi les forces politiques traditionnelles, est quand même très faible. C'est-à-dire que les problèmes de l'Égypte aujourd'hui, c'est le problème de la démocratie politique, mais c'est aussi les problèmes économiques, les problèmes sociaux. Or, là-dessus, les frères musulmans n'avaient pas de programme économique social, ou leur programme, c'était un programme néolibéral, mais c'est le programme de pratiquement toutes les forces politiques aujourd'hui. Donc là, il va y avoir, à mon avis, des remous. Et bon, ça peut paraître une vision un peu optimiste, c'est-à-dire que le fait que ce qui s'est passé en janvier et février 2011, c'est-à-dire l'entrée en mouvement de millions de gens qui disent « nous voulons la démocratie, nous voulons la justice sociale, nous voulons nos droits », ces gens ne vont pas rentrer chez eux facilement. Le gouvernement ne va pas pouvoir leur dire « écoutez, maintenant vous rentrez chez vous et nous allons régler les questions ». Et c'est là-dessus que ça va se jouer. Combien de temps ça va prendre, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quand même sur ces problèmes de réforme économique, sociale, mais aussi de pluralisme politique que va se jouer la suite en Égypte. دنيا موجة ظلام ومات البصر في العيون والبصائر وغاب الطريق في الخطوط والدوائر يا ساير يا داير يا ابو المفهومية مفيش لك دليل غير عيون الكلام
عيني شايف الخطر طغى قلوب زي الحجر اصوات الحق بتتخرس ايدين العدل بتتبتر بذر الظلم وطرح شجر جفاف وطال بدون مطر نفوس الناس بقت سجون عتماء في ليل بدون قمر والعادي بقى انك تعيش جبان متهان احسن ما تكون ميت مربوط ومتأيد عبد وسيدك سجان عايش متسام متلجم دورك محدود متحجم الكون كله بيتقدم وطنك عقله بيتسمم وسواء الذل بتسقي كل غصب واقتدار ضعف وانكسار جهل وانحدار قمع وحصار عايش في بلاد منهوبه عايش في بلاد منكوبه عايش في بلاد مركوبه من حكام كفار حكموها هدفهم نبقى مشتتين هدفهم نفضل في انقسام هدفهم نفضل مش فاهمين وممنوعين من الكلام مفيش مكان للاستسلام للانهزام احنا صورهم مكملين رغم الغمام
الشمس غير
في الغمام مش هيخلص الكلام مش هتموت الاحلام
ومات على الدنيا
موجة ظلم صدم في موجة ضلال
ومات البصر
في العيون في البصاير في القلوب في الدروب تاهت الضماير
وغاب الطريق
جوه خطوط جوه فروق كلها محطوط عشان نتوه في الدواير
يا ساير يا داير يا ابو المفهومية مفيش لك دليل غير عيون الكلام
Ah, expliquer comment le rejet par les Arabes de l'État d'Israël a mené au conflit actuel. Évaluer les efforts des organisations internationales pour amoindrir la souveraineté américaine. Voilà, ça c'est dans un manuel scolaire texan, on a pu lire une chose pareille en 2010. Voilà, vous avez dans le diplôme de ce mois-ci un dossier sur les manuels scolaires, virgule, le soupçon. Vous nous rappelez qu'il y a 40 millions de manuels scolaires qui sont imprimés en France chaque année. Ça constitue un chiffre d'affaires très important, 300 millions d'euros. Et puis vous rappelez aussi que c'est une histoire récente, hein, les manuels scolaires, quand même. Ça date du 19e siècle. Jusque-là, c'était des catéchismes, c'était des missels dans lesquels on apprenait à lire et qu'on lisait. Donc c'est une histoire récente et évidemment le moyen de la manipulation et de la fabrique du consentement. Benoît Bréville.
Oui, alors on a fait ce dossier de 5 pages sur les manuels. Parce que comme vous le disiez, 40 millions de manuels vendus, pas seulement imprimés, mais vendus chaque année en France. Ça représente un marché colossal et évidemment, comme tout marché de ce type-là, ça fait l'objet de multiples critiques. Alors les critiques, elles sont de tout ordre. On cite Michel Rocard, par exemple, qui considérait que les manuels de sciences économiques sociales étaient une catastrophe ambulante qui était responsable du blocage du dialogue social dans le pays. Silvio Berlusconi, en Italie, expliquait que nos enfants ne devraient plus étudier les ouvrages d'histoire qui contiennent des déviations marxistes. Qui sont aussi vus comme étant des vecteurs de destruction de la famille. Donc on se souvient de la polémique avec les députés UMP qui avaient reproché au manuel de sciences de la vie et de la terre de favoriser la théorie du genre et puis de promouvoir l'homosexualité. Ils sont aussi accusés d'être islamistes. Par exemple, dans un bouquin paru récemment, deux professeurs de lycée expliquent qu'un manuel de Bordas est une reprise pure et simple du discours des terroristes à destination des masses arabes et de l'Occident rongé de mauvaise conscience. Les Tariq Ramadan et autres islamistes affables, invités des forums sociaux et des grandes messes altermondialistes, tiennent le même discours usurpateur pour séduire un public palestinophile et hostile à la mondialisation libérale identifiée au capitalisme américain. Donc bon, au monde diplo, quand on voit que les manuels scolaires sont à la fois marxistes, islamistes et puis anti-famille, ça nous a un petit peu inquiétés. Donc on s'est demandé si vraiment nos enfants...
Le soupçon.
On a eu aussi un soupçon. Donc on s'est demandé si nos enfants apprenaient vraiment leurs cours sur de tels manuels. Et c'est comme ça qu'on a effectivement décidé de faire un tour du monde des manuels scolaires, parce qu'on ne s'en tient pas juste au cas français. Bon, évidemment, les sciences économico-sociales, on se doute bien comment elles peuvent diffuser une idéologie pro-entreprise, etc. Et donc c'est le cas d'un article de Sylvain Leder, qui est prof de SES lui-même, et qui a comparé deux manuels, un des années 70, pour voir comment on parlait de l'entreprise à cette époque, et un de 2011. Et dans les années 70, on pouvait voir que les manuels parlaient très régulièrement de patrons. Dans le manuel de Duno, par exemple, des années 70, on pouvait lire qu'il serait nécessaire que les ouvriers eussent entre leurs mains une forte proportion du capital de l'entreprise. Donc ça, c'est ce que les enfants apprenaient à 40 ans dans les années 70.
C'était mieux avant, il n'y a rien à faire.
Et aujourd'hui, on ne parle plus de patron, mais on parle systématiquement d'entrepreneur. Et les cours qui sont dans le manuel qu'il a analysé donc de 2011, il y a par exemple des leçons intitulées « Réduire les coûts pour accroître les profits ». Ou alors, la productivité, un concept majeur, ou encore, comment produit une entreprise. Donc, on essaie de familiariser les gens, non pas à la critique de l'entreprise, mais à son fonctionnement interne, etc. Mais il n'y a pas, évidemment, que les sciences économiques et sociales qui sont vecteurs d'idéologie. Bon, vous avez évoqué tout à l'heure les exercices de mathématiques en Afghanistan dans les années 80, mais il n'y a pas besoin d'aller jusque dans les années 80, ni en Afghanistan, pour trouver ça. Et on a deux chercheuses, Carole Brugeil et Sylvie Cromer, qui nous ont fait un article sur l'arithmétique au masculin. Elles ont pris les manuels scolaires de primaire de mathématiques en Afrique pour compter tous les personnages qui étaient évoqués à l'intérieur du manuel. Donc c'est dans les exercices, quand il y a un garçon qui achète des billes, une fille qui échange, je ne sais pas trop quoi, avec ses amis, etc. Pour regarder dans quelle situation les hommes et les femmes étaient représentés dans les manuels scolaires. Donc bon, je ne vais pas vous dire leurs conclusions, je laisse les auditeurs lire l'article. Mais c'est assez édifiant sur la manière dont...
Il faut faire attention à ça, hein, parce que vous expliquez tellement les articles que les auditeurs n'achètent plus le diplôme. Hein. Il faut quand même faire bref.
Là, je la fais sous forme de teasing.
Bah oui, voilà, il faut faire du teasing et pas donner la fin de l'article, pas la chute, pas la conclusion.
Non, juste
voilà le début, le titre et puis voilà.
Voilà, j'ai juste donné la base. Donc, pour voir comment sont représentés les hommes et les femmes en Afrique francophone dans les manuels de primaire, j'invite les gens à acheter le monde diplomatique en cœur ou à s'abonner.
S'amuser. Oh lolo, mais trop dodo sont les mamelles de notre société. C'est la vie, mon petit gars, et ça ne fait que commencer. Pas de répit, pas de repos, dès le berceau, il faut te formater. C'est la vie.
Alors, on continue avec le diplôme de ce mois de septembre. On va en banlieue, et on va en banlieue avec les journalistes, avec les équipes de télé qui ont bien des difficultés à filmer et à nous raconter ce qui se passe dans ces terribles banlieues. Quand on vient avec une caméra, on n'est pas toujours très très bien accueilli. Et vous vous êtes intéressé à ça, Jérôme Berthaud, Tintin reporter en banlieue.
Oui, tout à fait. En fait, j'ai réalisé une enquête... de sociologie, donc principalement dans la rédaction de France 2, à travers un travail d'observation où donc j'ai accompagné les journalistes de la conception du sujet en conférence de rédaction jusqu'à son montage final, et donc en passant par les étapes dans les quartiers populaires où les journalistes vont pour faire des images, interviewer des habitants. Et effectivement, là, il y a une réelle difficulté pour se rendre sur place. Il y a toute une série de raisons. Hein. Question d'éloignement social, on sait que le recrutement des journalistes aujourd'hui est de plus en plus sélectif, que ce soit à l'entrée des écoles de journalisme comme dans les rédactions. Et de fait, on a plutôt des jeunes reporters qui viennent des milieux aisés et qui, quand ils arrivent dans un quartier populaire, c'est une expérience tout à fait nouvelle pour eux. Mais à cela s'ajoute le fait que les habitants des quartiers populaires commencent à avoir une certaine expérience de l'arrivée des journalistes et donc sont relativement méfiants, voire carrément hostiles. Surtout que, bien souvent, beaucoup de ces reportages viennent mettre en lumière les supposées déviances qui caractérisent la vie de ces quartiers populaires. Alors on a toute une une série de déclinaisons de déviance, hein, le communautarisme, le fanatisme musulman, les violences, les trafics, etc. Et donc, ben, de fait, on a des habitants qui rechignent un peu à répondre aux journalistes, voire qui parfois peuvent les agresser verbalement ou même physiquement. Donc effectivement, pour les journalistes, les jeunes reporters, qui se voient confier des commandes de reportage, il y a une espèce d'équation très compliquée à résoudre, surtout quand on voit comment ils préparent leur reportage. On voit à quel point il y a tout un travail en amont qui va consister à sélectionner des quartiers où il est plus facile d'aller qu'ailleurs. On se rend compte, par exemple, qu'ils vont aller beaucoup dans le Val-de-Marne et dans l'Essonne. Alors, et là encore, pour des raisons très pratiques, qui sont que, France 2, c'est dans le 15e arrondissement à Paris. On va privilégier, pour une raison purement géographique, certains quartiers comme la Grande Bande, par exemple, à Grigny. Et puis l'autre raison pour laquelle on va choisir certains quartiers du Val-de-Marne ou de l'Essonne, c'est parce que sur place, les reporters ont noué des contacts avec ce qu'on appelle des intermédiaires, des facilitateurs un peu de la production de ces reportages. Donc c'est souvent des éducateurs, mais ça peut aussi être des élus, des responsables associatifs, qui sont devenus un peu des professionnels de l'accompagnement de journalistes en banlieue, et qui donc en amont vont déjà prévenir les habitants que des reporters vont venir, essayer de repérer les habitants qui vont être prêts à répondre aux questions et surtout de sélectionner des habitants qui vont coller à la commande de reportage qui a été formulée en conférence de rédaction. Et parce qu'en fait, on se rend compte, quand on travaille sur la médiatisation des quartiers populaires, qu'on a en fait un peu une galerie de portraits très récurrente sur les quartiers populaires. On va voir l'imam, l'éducateur, le jeune en survêtement adossé à la tour d'immeuble, la jeune fille qui a réussi et qui essaie de s'en sortir.
Les barres d'immeubles.
Alors, les barres d'immeubles, effectivement, au-delà de la sélection, du casting, c'est des mots qu'on entend. Hein.
Oui, bien sûr.
Dans les salles de rédaction, on dit qu'il faut caster des personnages. Alors, quand on va peu dans les quartiers populaires, on a effectivement l'impression que toute la Seine-Saint-Denis, ce sont d'immenses tours, de très grandes bars, des voitures calcinées un peu aux quatre coins de rue.
Des femmes voilées qui passent.
Des femmes voilées, beaucoup, oui. Et en fait, quand on y va, on se rend compte que l'habitat est beaucoup plus divers, qu'on a des endroits avec des grandes pelouses, etc. Et en fait, une partie du travail journalistique consiste justement à choisir dans ce paysage urbain finalement assez hétérogène, des endroits du quartier qui vont correspondre à cette imagerie des banlieues qu'on voit dans les reportages. Et ensuite, on a tout le travail du caméraman, du journaliste reporter d'image qui va consister à faire des travelling, à faire des plans en plongée, en contre-plongée, à zoomer sur des paraboles, des tours d'immeubles pour amasser en fait toute une série de matériaux, que ce soit à travers des interviews ou des images, et pour pouvoir recomposer ensuite au montage cette commande qui a été formulée en amont. Donc il faut bien se dire que quand des reporters, souvent d'ailleurs très jeunes, vont dans un quartier populaire, ils ne sont pas dans l'idée de produire un reportage raciste, ils ne sont même pas quelque part dans l'idée de produire un reportage sur les quartiers populaires. Ils viennent remplir une commande qui consiste à illustrer le communautarisme en banlieue et leur capacité à se conformer aux commandes, à respecter la commande, va déterminer ensuite leur mobilité dans la rédaction, c'est-à-dire le fait qu'ils vont pouvoir se voir attribuer des sujets de plus en plus prestigieux et intégrer des services plus prestigieux et évidemment avec tout ça, passer du CDD ou de la pige au CDI, l'intégration, etc. Donc il faut bien comprendre que le problème qui se pose au reporter qui va dans les quartiers populaires, c'est pas de produire un reportage raciste ou pas, c'est pas une question d'idéologie qui est derrière tout ça, en tout cas au niveau des reporters, c'est très important de dire ça, c'est simplement de bien faire son travail. Et en fait, quand on est plongé dans un univers professionnel pétri de normes très puissantes et dictées par des rédacteurs en chef, qui souvent viennent de l'audiovisuel privé, c'est la particularité de France 2 aujourd'hui, c'est qu'une grande partie de la hiérarchie, les rédacteurs en chef, etc., a fait tout ou partie de sa carrière dans l'audiovisuel privé, et donc importe des modèles de production auxquels des reporters du service public sont contraints de se soumettre, et par la pratique, par la reproduction successive de reportages, finalement vont faire sienne ces définitions. C'est par la socialisation professionnelle qu'on a ces reportages et ces stéréotypes sur les quartiers populaires qui peuvent se reproduire.
Non, tout le temps à la télé, à la radio, t'entends dire que les jeunes sont des voyous, toujours à la recherche d'un mauvais coup.
C'est showtime, chaque jour faut que là une claque. S'ils ont rien d'important sous la dent, une goutte de sang, ils en feront une flaque.
On se sent pas dans la sécurité.
Avant on se coupe, afin que l'auditeur s'approche.
On doit être heureux, on lui
ouais le fond, sans faux fond, faut vendre l'info, c'est clair qu'faut faire mouiller le lecteur, plus
pas se promener comme on veut, tranquillement.
Le pire, c'est qu'on répète, que répète le mec à William, que peut-être qu'il lui a mis au fond enfin
les mêmes mots qui reviennent.
De toute façon, maintenant l'info, ils plafond tous, façon fashion, la façon carry time, façon action. Ça parle de gang, bien de trafic, des contre 4 jeunes, y'a une embrouille, t'as catché le vice.
Dans la ville, deux zones de sécurité prioritaires ont été créées.
On nous diabolise tous, entretenant les phobies et allant jusqu'à foutre des fausses barbes à des mecs de Tessie. Je trouve ça marrant, ouais.
Quand les mêmes mots qui reviennent,
alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir. Je doute de tout, pour pas qu'on foute le feu, ils foutent le flou, craignant de réveiller une foule de fous.
Le dispositif porte ses fruits, d'importants trafics de drogue ont été démantelés. Les mêmes mots qui reviennent, viennent.
Alors que leur rôle c'est qu'on puisse tout voir. Je doute de tout.
Ouais gros,
ouais,
t'as dit
t'as
le journal ce matin,
la foot
bien.
Non, même pas.
Ah, c'est des mensonges
là-bas
dedans.
Hein. Oh, ah,
je crois pas.
Hein, c'est ton chou,
merde. Alors, on est toujours avec le diplôme du mois de septembre. Christiane Marty, vous parlez des femmes et vous parlez des femmes à la retraite. Vous nous rappelez que les salaires féminins sont inférieurs d'un quart en moyenne. Et concernant les retraites sont inférieures par rapport aux hommes de 42%.
Oui, non, ça c'est ce qui est un peu connu, mais c'est que la retraite amplifie les inégalités entre les hommes et les femmes qui existent déjà dans la vie professionnelle. Vous venez de citer les chiffres, et c'est un peu intéressant de voir pourquoi. Parce qu'en plus des salaires plus faibles, les femmes, elles ont aussi, toujours en moyenne, mais des périodes à temps partiel et des temps d'interruption de leur carrière, puisque c'est en général elle qui assure la prise en charge des enfants. Et les salaires et la durée de carrière, et ben ce sont les deux composantes principales qui entrent dans le calcul de la pension de droit direct. Il faut faire un petit retour en arrière pour voir d'où ça vient. Le système de retraite et plus généralement la protection sociale ont été créés il y a maintenant près de 70 ans. Sur le modèle qui était celui de l'époque, où l'homme, c'était le gagne-pain, il travaillait à temps complet, sans interruption de carrière, et lui, il bénéficiait de droits directs à la protection sociale, à la sécurité sociale, etc. Et la femme était femme au foyer, la plupart du temps, et donc elle bénéficiait aussi de la protection sociale, mais à titre de, en droit dérivé, ce qu'on appelle à titre de son statut d'épouse, éventuellement de mère. Et donc le calcul de la pension, il s'est fait sur ce modèle-là, sur ce modèle de carrière de l'homme à temps plein, et ça défavorise les carrières courtes. Et c'est pas seulement nous qui le disons, mais c'est le Conseil d'orientation des retraites constate que ce système aboutit, je crois qu'il dit, à un effet anti-redistributif, bon, et ça accroît les inégalités en défaveur des assurés à carrière courte, et donc des plus bas salaires, des femmes tout particulièrement. Donc ce calcul, il est discriminatoire. Au fil du temps, les femmes rentrant sur le marché du travail, il y a des droits familiaux, des dispositifs familiaux qui ont complété ce système et qui ont tenté de compenser un peu la pénalisation de carrière des femmes. Alors c'est vrai qu'ils sont indispensables, ces droits familiaux, parce qu'avec eux, la pension globale des femmes, elle atteint 72% de celle des hommes. Donc ça compense hein, par rapport à la précédente. Mais il y a tout de même un problème avec ces dispositifs, c'est qu'ils agissent a posteriori, mais ils n'agissent pas sur la source des inégalités. Et parfois même, c'est pire, parce qu'ils entretiennent ces inégalités, ils enferment les femmes dans leur rôle de mère. Voilà. Par exemple, il y a des dispositifs, les majorations de durée d'assurance dans la fonction publique, ils sont attribués, comme on dit, sous condition de cessation d'activité. Ça veut dire que ce sont des incitations à se retirer de l'emploi et qui concernent de fait les femmes, hein, donc qui passent à temps partiel ou qui se retirent totalement de l'emploi. Et ça, bien sûr, après, c'est défavorable à leur déroulement de carrière, c'est défavorable ensuite au montant de leur pension. Ce qui fait qu'au final, on pérennise les rôles sexués, les rôles de mère pour les femmes. Et puis, les femmes se voient attribuer des droits complémentaires, des droits dérivés, mais ça se fait au détriment de leur droit direct à une pension. Donc ça, c'est le problème.
Merci à Christiane Marty, Jérôme Berthaud, Benoît Bréville, Alain Grèche Et Serge Halimi, c'était notre émission mensuelle avec le Diplo, le monde diplomatique, que vous pouvez trouver en kiosque si vous n'êtes pas abonné. Vous retrouverez toutes les informations sur le site de France Inter à la rubrique émission là-bas si j'y suis. Vous pouvez également réécouter cette émission sur le site là-bas.org, là-bas.org. Et puis, il y a la page Facebook de l'émission là-bas si j'y suis. À la technique aujourd'hui, Maxime Anna et Sophie Moreno. Cette émission a été réalisée par Jérôme Chélius et Franck Adhérer, préparé avec Pierre-Yves Bulteau. Le montage était assuré par Anaël Verzo et Guy Ventil. Et Stéphanie Fromentin attend vos messages sur le répondeur de la Bassigissue au 01 56 40 37 37. Demain, eh ben on ne se retrouve pas demain à 15h. Vous le savez, maintenant nous ne sommes plus là le vendredi. On se retrouvera donc lundi à 15h pour la base si j'y suis. Demain, vous retrouverez Zoé Varié avec l'heure des rêveurs. Voilà, et tout de suite, on retrouve Hervé Pochon avec un temps de Pochon. La base si j'y suis, retour lundi. Salut.
Allez, 5, 4, 3, 2, 1 et 0. Et maintenant, sur France Inter, il va y avoir un temps de Pochon, mais ça ne va pas durer.
On va favoriser votre accompagnement vers vos camarades qui se trouvent de l'autre côté.
Mais excusez-moi, monsieur, pourquoi vous êtes déguisé comme ça?
Parce que je suis Blatman.
Blackman.
Blatman.
Ah, Blatt, vous êtes une Blatt.
Absolument, je suis une Blatt. Et je suis venu dire que les Blatts étaient opprimés dans ce pays et que... Profondément, une blatte, elle a besoin d'une blatte mâle et d'une blatte femelle. Donc je pense que je suis venu délivrer ce message de vérité, mais je tiens à souligner que les policiers sont très racistes, fascistes.
Pourquoi?
Parce qu'ils me regardent mal, ils nous maltraitent, tout ça parce que je suis blatte.
Comme vous, vous maltraitez les homosexuels, c'est ça?
Moi, je ne maltraite aucunement les homosexuels. D'ailleurs, j'en ai beaucoup d'amis, et beaucoup d'amis d'ailleurs qui sont contre le mariage, cher monsieur.
Et, oui, et... mais ceux qui sont pour?
Ah, cher, ils ont le droit d'être pour, comme il y en a qui ont le droit d'être contre.
Oui, bien sûr.
Et en quoi c'est une maltraitance
Si vous empêchez des homosexuels qui ont envie de se marier...
Alors, c'est un très long débat. C'est-à-dire que, qu'est-ce que le mariage? Si le mariage, c'est simplement de l'amour, dans ce cas, oui, ils ont le droit de se marier.
Ah oui, c'est ça le mariage.
Mais non, moi, je ne pense pas que ce soit ça le mariage. Je pense que le mariage, c'est une institution qui institue la famille et une filiation. Et dans
alors,
ce cas...
Il ne faut plus que les gens qui ont plus de 50 ans se marient non plus, alors. Puisqu'ils ne vont plus avoir d'enfants, donc ils ne vont pas fonder de famille.
Quand bien même ils ne les auraient pas, c'est un modèle qui est calqué sur le modèle de la filiation. Donc un homme et une femme font la vie, même s'ils sont stériles. Vous n'avez pas pris l'exemple des couples stériles, mais vous pouvez le prendre également. Ça revient à la même chose, c'est-à-dire que c'est calqué sur un modèle qui normalement crée la vie. Normalement.
Bonjour à tous et bienvenue Place de la Concorde avec des veilleurs.
C'est une radio de gauche, ça.
Je ne sais pas, vous croyez?
France Inter, bah oui. De toute manière, tous les journalistes sont de gauche.
Vous écoutez quoi, monsieur, vous?
Radio Courtoisie, cher monsieur. Alors ça, c'est une radio... Je vous conseille Radio Courtoisie.
Ça, c'est une radio de droite.
Ça, vous savez, vous êtes à la solde du pouvoir. Hein. C'est bien connu. Ouais. Journalistes, ils sont très nuisibles à la société.
Et même les journalistes de Radio Courtoisie?
Non, ceux-là, ils sont...
C'est une caricature.
Bah oui, mais qu'est-ce que je dis?
La majorité des gens qui sont là sont des gens qui ont voté Hollande en 2012, qui ont voté Sarko, et en fait, qui s'en foutent, c'est plus le sujet. C'est plus le sujet parce qu'en fait, aujourd'hui, ils sont plus ni de droite ni de gauche. Parce que l'UMP a pas...
Ils sont
l'UMP,
plutôt de droite.
L'UMP, c'est...
Ça, vous voulez parler?
Oui, si vous voulez. Quelle est votre question?
Qu'est-ce que vous faites là, madame?
Moi, je soutiens ce mouvement de jeunes que je trouve formidable.
De jeunes? Il n'y a pas que des jeunes.
Moi, j'ai l'impression qu'ils ont plutôt entre 20 et 30 ans, quand même. Ils sont très nombreux.
Vous êtes croyante?
Oui, moi, je suis croyante. Ouais, ouais.
Et
mais vous me demandez, je suis croyante en quoi?
Mais vous êtes croyante en quoi?
Oui. Voilà. Moi, je crois en la liberté, mais je crois surtout en l'amour entre les humains et la solidarité.
Ah justement, vous croyez en la liberté? Pourquoi vous ne voulez pas que les homosexuels soient libres de se marier ou pas se marier?
Alors, c'est pas la question. Hein.
C'est pas le micro.
Oui, pardon, c'est pas le mariage des homosexuels qui nous pose problème. C'est ce que vous avez peut-être pas compris, c'est qu'avec cette loi, il y a la Cour européenne des droits de l'homme qui applique automatiquement les lois de PMA, GPA. Et c'est ça qui nous inquiète, c'est la non-liberté des enfants de vivre avec leurs parents. Voilà, qu'on arrache des enfants à leur mère pour les donner à d'autres gens et que ça se fasse avec de l'argent, ça nous ennuie.
Oui, alors ça c'est encore autre chose.
Non, c'est pas autre chose, c'est la même loi. Quand la loi sur le mariage est passée. Donc nous, on était tout à fait pour créer un contrat civil pour les personnes de même sexe qui s'aiment. Ça pose aucun problème. Mais c'est les lois de PMA, de GPA qui ne protègent plus les plus faibles. Donc moi, j'attendais d'un gouvernement socialiste qu'on protège les plus faibles, qui sont les enfants.
Donc vous êtes socialiste ?
Non, je ne suis pas socialiste, mais j'attendrais ça d'un mouvement de gauche. Je ne suis ni vraiment de gauche, ni vraiment de droite, mais d'un gouvernement de gauche, on attendrait de la solidarité et la protection des plus faibles.
Je vous le redis, il y aurait eu un mariage, juste un mariage, sans modification du code de procédure civile, sans atteinte à la filiation, vous n'auriez pas eu 1 400 000 personnes le 24 mars.
Votre prénom ?
Jean-Marc.
Nathalie.
Est-ce que vous n'avez pas l'impression que vous êtes en train de définir le monde entre homo et hétéro ? Le monde, pour moi, il est... Madame est une femme, moi je suis un homme. Après son orientation sexuelle, c'est pas le problème. Et le monde, il se définit entre masculin et féminin. Il se définit pas entre homo et hétéro.
La biologie, le corps humain nous le montre.
Oui, mais justement, je suis tout à fait d'accord. Le monde ne se définit pas entre homo et hétéro.
Et qu'est-ce qui se passe actuellement ? Que ce soit la loi du genre, qu'est-ce qui se passe ? Que ce soit la loi Taubira, on est en train de couper le monde entre les homos et les hétéros. Ça n'a pas de sens.
J'ai envie de dire que le monde était coupé avant, puisque un couple homo ne pouvait pas se marier, alors qu'un couple hétéro pouvait se marier. Et que là, la loi...
Le sujet n'est pas le mariage, le sujet est la filiation. Ah non, vous n'auriez jamais eu autant de monde dans la rue. Il n'y aurait pas eu 1 400 000 personnes. Il n'y aurait pas eu 1 400 000 personnes sur la Grande Armée le 24 mars dernier si, en fait, c'était juste arrêté au mariage. Sans adoption, sans modification du code de profession. C'est la filiation le sujet.
Oui, mais justement...
Vous avez lu Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley, écrit en 1932.
Oui.
Relisez-le. Regardez ce qui se passe. Relisez-le. Faites l'effort.
Un temps de cochon, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve lundi.
Un temps de cochon a été réalisé par Véronique Barnet.
Du 7 au 15 septembre à Nice, assistez à la 7e édition des Jeux de la Francophonie, le plus grand événement sportif et culturel du monde francophone. 9 jours de compétition inoubliable avec plus de 3000 athlètes et artistes venus de 56 pays. Venez découvrir le talent des conteurs, chanteurs et danseurs. Venez vibrer au rythme des exploits des footballeurs, judokas et basketteuses. Partagez un moment unique avec la jeunesse francophone. Entrée gratuite, informations complémentaires sur nice2013.fr.
En décembre 2013, la Maison de Radio France célèbre ses 50 ans.
France Inter, France Culture, France Musique aussi.
La fête commence avec France Culture les 6, 7 et 8 septembre au Palais de Tokyo à Paris.
Plus de 50 heures d'émissions en direct et en public et aussi des concerts, débats, fictions, exposition. Venez nombreux.
Tout le programme sur franceculture.fr.
France Culture, une radio de Radio France.
Vous écoutez France Inter, il est 16h. Le point sur l'actualité, Laetitia Gaillet. Une poignée de main, Vladimir Poutine a accueilli en début d'après-midi Barack Obama à Saint-Pétersbourg en Russie. Le président russe est l'hôte du G20 qui doit se tenir aujourd'hui et demain dans son pays. Les deux hommes ont donc affiché ce que l'on appelle un sourire diplomatique. L'enjeu pour les présidents russes et américains est de taille. Ça se joue sur leur influence de leurs deux pays. L'un, l'américain, étant partisan d'une attaque ciblée sur la Syrie après celle présumée chimique du 21 août. L'autre, le russe, continuant de soutenir indéfectiblement le régime de Damas. Pour l'instant, aucun tête-à-tête n'est prévu entre les deux hommes, mais Vladimir Poutine a proposé en ouverture du G20 que le dossier syrien soit discuté au dîner de ce soir. Arnaud Montebourg est attendu cet après-midi à Cherbourg. Le ministre du Redressement Productif a fait savoir qu'il allait y annoncer une très grosse commande pour les chantiers navals. Une très bonne nouvelle pour la Manche, a fait savoir Arnaud Montebourg, qui n'a pas donné plus de précisions. Le fabricant de moteurs de lave-linge Selny à Nevers dans la Nièvre annonce aujourd'hui son intention de reprendre l'usine Electrolux de Revin dans les Ardennes. 230 salariés sur les 391 que compte l'usine seront conservés. L'accord pourrait être finalisé fin novembre. Le groupe de médias Lagardère Active dément aujourd'hui l'information parue sur le site de L'Express. Il n'a pas confié de mandat à une banque d'affaires pour vendre la quasi-totalité de ses titres de presse magazine. En revanche, le groupe Lagardère refuse de confirmer pour l'instant si oui ou non il a bien l'intention de vendre ses titres à terme. Dans l'affaire des biens dits mal acquis, on apprend aujourd'hui qu'Interpol ne recherche plus le fils du président de Guinée équatoriale, Théodora Obiang. Il reste toutefois sous le coup d'un mandat d'arrêt européen émis l'an dernier par la justice française. Une nouvelle garde à vue dans l'affaire du meurtre de la joggeuse Patricia Bouchon en février 2001 près de Toulouse. Un homme a été interrogé pendant 2 jours avant d'être relâché ce matin. Il habite la localité où le corps de Patricia Bouchon a été retrouvé. Au total, 10 d'individus ont été placés en garde à vue dans cette affaire avant d'être mis hors de cause. Le voilier disparu hier soir au large du Havre a finalement été retrouvé en début d'après-midi par un ferry. Il était à 46 km au nord-ouest du Havre. Apparemment, il dérivait depuis un long moment. Il n'y avait personne à bord. Son unique occupant a disparu. 200 personnes en attente d'un logement d'urgence sont toujours installées dans des campements de fortune dans le centre-ville de Clermont-Ferrand. C'est la 4e journée consécutive. Selon la préfecture du Puy-de-Dôme, 92 familles monoparentales avec des enfants en bas âge ont retrouvé une solution pérenne de relogement. Lundi, plus de 360 personnes demandeurs ou déboutées du droit d'asile ou encore des SDF et les femmes victimes de violences avaient dû quitter leur hôtel. L'association gérant l'hébergement d'urgence n'ayant plus les moyens de payer les hôteliers faute d'un financement suffisant de l'État. Enfin, la Terre a tremblé aujourd'hui au large du Costa Rica, magnitude 6 sur l'échelle de Richter. Vous écoutez France Inter, il est toujours 16h03.
Viva la femme!
Les femmes, toute une histoire.
Viva!
Stéphanie Duncan.
La crèche, la maternelle, l'école primaire sont-elles, comme elle le proclame, les sanctuaires de l'égalité républicaine ou au contraire le creuset des stéréotypes filles-garçons les plus éculés? On en parle demain à 17h avec Brigitte Grézy et Nicolas Barre du plan ABCD Égalité. Et je recevrai Laure Adler pour Immortel, un roman sur la beauté et la force des amitiés adolescentes. À demain!
Les femmes, toute une histoire, ce vendredi à partir de 17h. France Inter.
La voix est libre.
Et vous savez quoi, c'est l'heure de Frédéric Lodéon pour son carrefour. Bonjour Frédéric.
Et on vous retrouve à 17h Laetitia.
A tout à l'heure.
Carrefour de l'Odéon. Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Nous allons aujourd'hui feuilleter Diapason, le nouveau magazine de la musique classique et de la haute fidélité, notre partenaire avec en couverture le beau portrait de Jonas Kaufmann, superbe ténor vénéré. Il y a aussi l'œuvre du mois, une étude de la 5e sonate pour piano de Scriabine, un supplément consacré aux opéras, un guide des opéras pour la nouvelle saison 2013-2014. Il y a aussi une enquête sur les pianos d'études, 12 pianos d'études au banc des C'est les 80 ans de Dame Janet Baker, grande dame du chant britannique. Plus de 160 critiques de CD et DVD. Puis on parle aussi de Corelli, j'ai déjà cité son nom, c'est son anniversaire, génie du concerto baroque. Tout de suite, un hommage à Edward Elgar, qui est dirigé de manière magistrale par Sir Adrian Boult. Nous avons décerné un diapason d'or France Inter à ce coffret tout à fait copieux, tout à fait intéressant. Et c'est l'intégrale carrément des enregistrements chez EMI d'Adrian Boult. Un personnage qui avait l'air, d'un brave pépère, on aurait dit un paysan rencontré au coin d'un zinc dans un bistrot, moustache importante, belle calvitie, un air d'en avoir deux. Enfin voilà, quelqu'un dont on ne dirait pas, c'est un chef d'orchestre, c'est un grand artiste. Et pourtant, Adrian Boult a donné vraiment le meilleur de lui-même pour la musique symphonique britannique et puis beaucoup d'autres musiques aussi. Voici un extrait de la première marche de Pomp and Circumstance de Sir Edward Elgar, un autre sœur, et là c'est devenu le passage lent qu'on va entendre avant le retour du premier motif, c'est devenu une sorte de second hymne national anglais, et on comprend pourquoi, parce qu'il y a vraiment une sorte d'élévation, il y a une sorte de chaleur qui arrive tout de suite dans ce très joli thème.